Un haut responsable du ministère russe des Affaires étrangères rejette strictement l'existence de toute indication indiquant une implication probable de l'Iran dans une récente attaque contre un pétrolier israélien au large de la côte omanaise. Nous n'avons pas la moindre raison de croire que l'Iran a été impliqué dans l'attaque, a déclaré lundi le deuxième directeur du département asiatique du ministère russe des Affaires étrangères, Zamir Kabulov, à l'agence de presse russe Sputnik. Dans un communiqué publié vendredi, Zodiac Maritime, la société israélienne qui gère le pétrolier, a déclaré que deux membres d'équipage, un Britannique et un Roumain, avaient été tués dans l'assaut. Le régime israélien et ses alliés joueraient. Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont précipités pour accuser l'Iran d'avoir joué un rôle dans l'incident, sans fournir aucune preuve. Le ministère roumain des Affaires étrangères a également affirmé que l'attaque était délibérée et coordonnée par Téhéran. Kabulov, cependant, a réitéré la position de la Russie, affirmant que le refus de Moscou de corroborer de telles accusations était dû au fait que nous n'avons aucun fait. Quand il y aura des faits, alors nous élaborerons notre position, a-t-il ajouté. L'accusation d'Israël concernant l'implication de l'Iran dans l'attaque d'un navire est enfantine, influencée par le lobby sioniste, ministère des Affaires étrangères a déclaré. L'Iran affirme que les récentes accusations portées par Israël et les États-Unis concernant l'attaque d'un navire géré par Israël dans la mer de Man sont enfantines et influencées par le lobby sioniste. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires britannique et l'ambassadeur de Roumanie pour transmettre l'avis aux protestations de Téhéran, rappelant aux émissaires que la source de l'instabilité dans le golfe Persique n'était pas la République islamique, mais en fait une présence extra-régionale. Le porte-parole du ministère, Saïd Khatibzadeh, a également réfuté ces accusations comme étant absolument sans fondement, affirmant qu'elles comportent des allégations contradictoires, creuses et provocantes. Le responsable a également lancé un avertissement fort contre tout acte d'aventurisme ciblant les intérêts de la République islamique sur la base de revendications infondées. Le réveil du peuple de France face à la manipulation planétaire autour du Covid montre l'importance des manifestations et rassemblements pour la liberté. Depuis le début de la crise de Covid-19 en 2020, le peuple français semblait hiberné dans un long sommeil, malgré l'activité audacieuse et courageuse de quelques lanceurs d'alerte qui, ici et là, prêchaient un autre son de cloche. À l'opposé, les informations diffusées dans les médias officiels MSM, Mainstream Media. Il a fallu attendre le discours du président français du 12 juillet 2021 pour que se produise une sorte de déclic provoquant le grand réveil du peuple de France. Dans ce fameux et funeste discours, le président français annonçait le lancement d'un passe sanitaire en France sous le prétexte d'une prétendue crise sanitaire et obligeant ainsi de façon habile les Français non vaccinés à se faire vacciner, tout en bafouant de façon hypocrite les principes de liberté, égalité et fraternité qui sont les idéaux fondateurs de la République française. Cela a profondément touché les Français jusque tripes et beaucoup parmi eux commencent à ouvrir les yeux et se rendent compte que la crise du Covid n'est plus qu'une crise sanitaire, mais aussi une crise politique, géopolitique, existentielle et civilisationnelle, où des lois liberticides gagnent progressivement du terrain. Des lois votées par une assemblée nationale, en général vide et avec un semblant d'opposition, 230 députés présents sur 577 pour la loi sur le passe sanitaire, 156 voix pour, 60 contre et 14 abstentions. L'importance des rassemblements et manifestations pour la liberté est évidente. Pour ma part, je pense fortement que le fait que des êtres humains, hommes et femmes, se rassemblent et manifestent collectivement, ensemble, pour réclamer la liberté de façon non violente est un signal très important. Il me semble, en deux points. Premièrement, l'idéal de liberté étant divin, donc consciemment ou inconsciemment, nous, l'humanité, en manifestant ainsi notre attachement à la liberté, nous invoquons sans forcément le savoir les forces divines et les frères de lumière qui veillent sur notre humanité. C'est un peu comme une prière. Leur intention est donc d'après la loi du karma ou loi d'action et de réaction, ils sont obligés de réagir. Ça leur donne plus de pouvoir sur le plan occulte et pour nous aider et encore plus se manifester suite à l'appel de l'humanité. Deuxièmement, manifester ensemble montre aux forces de la loge noire, Illuminati et autres qu'il y a des êtres humains éveillés qui ne se laisseront pas faire et se ne soumettront pas comme des moutons à n'importe quoi. Un peu de résistance, mon Dieu. L'heure est grave. Nous vivons des moments historiques. Ce bras de fer qui commence entre le peuple et le gouvernement, entre les peuples du monde et les gouvernements, entre l'humanité et les acteurs du nouvel ordre mondial, est un reflet dans notre monde physique du combat entre les forces du bien et les forces du mal sur des plans invisibles et subtils à l'échelle de notre planète, de notre système solaire et de notre galaxie, un peu comme la guerre des étoiles, Star Wars. Ces mouvements collectifs de manifestation pour la liberté doivent donc se poursuivre avec plus d'intensité jusqu'à la capitulation du gouvernement. Le moment est venu de laisser un peu les claviers et les ordinateurs le week-end pour quelques heures et de descendre dans la rue, participer sur le terrain en ayant conscience qu'on participe ainsi à une bataille terrestre, solaire et cosmique. L'Ukraine adopte une loi permettant de mobiliser sa population face à une éventuelle agression russe. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky vient de signer les lois numéro 5557 et numéro 5558, lesquelles visent respectivement à instituer les principaux fondamentaux de la résistance nationale et à relever le plafond des effectifs des forces armées ukrainiennes avec le recrutement de 11 000 soldats supplémentaires, lit-on sur OPEX 360, le site web d'actualité militaire française. Ces textes, poursuit le média, ont été élaborés après que la Russie a effectué une démonstration de force aux frontières de l'Ukraine avec un important déplacement de troupes et de matériel en avril dernier. En outre, la tension est toujours vive dans le Donbass où des séparatistes pro-russes sont aux prises avec les forces gouvernementales ukrainiennes, justifie la source en cherchant à répondre à la question de savoir pourquoi le camp Atlantis va chaque jour plus loin dans ses provocations visant la Russie, l'Iran, la Chine, bref, les gouvernements non alignés. Et le site de continuer dans le détail explique Ukroboronprom, qui représente l'industrie ukrainienne de l'armement, la loi numéro 5557 organise un dispositif de résistance nationale. Résistance nationale. Je crois avoir entendu ce mot, qui vise à impliquer toute la population dans une éventuelle confrontation avec l'agresseur, sous-entendu russe. Il est ainsi question de mettre en place un système d'entraînement militaire général de la population afin d'améliorer la défense territoriale et d'animer un mouvement de résistance dans les territoires pouvant être occupés. Dans un contexte de poursuite par la Russie de ses plans militaristes, une telle démarche doit permettre d'unir la société ukrainienne autour d'une cause commune et essentielle qui est la défense du pays. Poursuit le texte qui précise qu'il s'agit ainsi de mettre en place une défense globale. Ce concept prévoit de placer les activités de toutes les forces de défense et de sécurité du pays sous un seul commandement pour défendre l'Ukraine, explique encore Ukroboronprom. Pour le président Zelensky, cette loi numéro 5557 donne le signal puissant que l'Ukraine se défendra et empêchera les événements de 2014, c'est-à-dire la perte de la Crimée, le début de la insurrection au Donbass. Et pour la petite histoire, OPEX avait commencé par cette mise en contexte habituelle. Cela permet, si nécessaire, d'impliquer l'ensemble de la population ukrainienne dans la défense de sa patrie, de sa terre, de sa famille, et d'unir tous les Ukrainiens autour de ces idées importantes et prioritaires a dit le président le 29 juillet. En 2018, préoccupé par les intentions prêtées à la Russie dans la région de la Baltique, la Suède a réactivé son concept de défense totale, qu'elle avait abandonné au lendemain de la guerre froide. En clair, il s'agit de faire en sorte que chaque Suédois soit préparé à gérer ses propres besoins et soins pendant une semaine sans le soutien du gouvernement, tout en se tenant prêt à contribuer à la défense du pays. Vive la résistance. L'Allemagne envoie une frégate au risque de mettre la Chine en colère. Alors que le torchon brûle entre la Chine et l'Allemagne, Berlin envoie une frégate militaire pour sa première mission depuis près de 20 ans dans le bassin Indo-Pacifique. La mission allemande, qui passera par la mer de Chine méridionale, doit contribuer à la stabilité dans la région et au respect du droit international, a expliqué la ministre de la Défense Ingrid Kramp-Karrenbauer. Il s'agit d'une délicate mission Indo-Pacifique pour l'Allemagne au vu de la montée en puissance de la marine chinoise. Le Bayern, navire militaire de 139 mètres de long, a levé l'ancre avec plus de 200 soldats à son bord depuis le port de Wilhelmshaven pour une mission de 6 mois visant à renforcer la présence allemande dans la région en se joignant aux troupes alliées, en particulier les Américains. Ce périple conduira le navire militaire allemand à Singapour, au Japon, à la Corée du Sud et à l'Australie. La frégate doit également traverser la mer de Chine méridionale, une route clé pour le commerce maritime mondial et une zone riche en ressources naturelles dont la quasi-totalité est revendiquée par Pékin. La mission allemande doit contribuer à la stabilité de la région et au respect du droit international, a expliqué la ministre de la Défense Ingrid Kramp-Karrenbauer avant le départ du navire, parce que la sécurité dans l'Indo-Pacifique est aussi notre sécurité, a-t-elle jugé, décrivant la mission comme un grand pas et un pas positif. Nous voulons prendre des responsabilités dans l'organisation du droit international dans la région, a déclaré pour sa part le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas. Alors que les réservoirs européens se vident, Gazprom diminue ses livraisons. Fournisseur crucial de l'Europe, le géant gazier russe a réduit ses livraisons vers l'UE, qui a pourtant besoin de remplir au plus vite ses réservoirs souterrains dégarnis après un hiver rude. Le 31 juillet, Gazprom, l'un des plus grands fournisseurs de gaz en Europe, a réduit le pompage de gaz dans le réservoir souterrain du continent, selon le Gas Infrastructure Europe, GIE, une association représentant les intérêts des opérateurs européens d'infrastructures gazière. Les livraisons via le gazoduc Yamal Europe, qui traverse la Russie, la Biélorussie, la Pologne et se termine en Allemagne, sont passées de 84 millions à l'entrée de l'Allemagne les jours précédents à 50 millions de mètres cubes samedi et 60 millions dimanche. Par conséquent, le pompage dans les plus grandes installations de stockage d'Europe utilisées par Gazprom en Autriche, en Allemagne et aux Pays-Bas a diminué. En règle générale, l'injection de gaz augmente le week-end à mesure que la demande industrielle diminue et que des ressources supplémentaires sont libérées pour diriger le gaz vers les réservoirs. En mai dernier, Elena Bourmistrova, vice-présidente du conseil d'administration de Gazprom, avait déclaré que les réserves de carburant dans les réservoirs souterrains de l'UE était à un niveau très bas, soulignant qu'il était nécessaire de les remplir au plus vite. Elle a par ailleurs rejeté les soupçons selon lesquels la limitation des livraisons de gaz russe via l'Ukraine visait à maintenir des prix élevés en Europe. L'hiver dernier, l'Europe a consommé des volumes records de gaz russe, près de 60 milliards de mètres cubes. C'est pourquoi ces réservoirs sont à présent quasi vides, explique le journal russe Commerçante. Le rétablissement des réserves de gaz est compliqué par un déficit de gaz naturel liquéfié, GNL, sur le marché. Ceci a déjà fait bondir les prix du GNL en Europe à plus de 500 euros le millier de mètres cubes. En effet, les prix de gaz en Europe ont explosé fin juillet après que Gazprom a de nouveau abandonné les enchères pour le transit de gaz via l'Ukraine. Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, en juin, Vladimir Poutine a expliqué la réduction du transit de gaz via le système de transport ukrainien par les tarifs trop élevés exigés par Kiev, ainsi que sa volonté de sous-estimer autant que possible le coût de gaz russe. Alors que la construction du Nord Stream 2 touche à sa fin, l'Ukraine ne cesse d'accuser la Russie d'avoir l'intention de mener contre elle une guerre énergétique et de lui faire perdre des milliards de dollars par an sur le transit de gaz. Le nouveau gazoduc permettra en effet à la Russie de moins dépendre du système de transit ukrainien.